Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc avec moi, Ina, dans mon salon. L'émission s'appelle « Regarde ailleurs ». Donc « Regarde ailleurs », c'est cette envie de partager des parcours de vie, des expériences de gens que je rencontre sur la route, donc des réalisateurs, des écrivains, des voyageurs. L'idée, c'est ça, c'est de prendre ce temps de rencontre avec toi. Donc peut-être revenir au début, qu'est-ce qui fait que toi, Ina, t'as eu envie un jour, dans ton parcours, de te dire « Bon, allez, je prends la route pour aller voir ce qui se passe au-delà de mon village ou de ma ville ».
Je pense qu'il y a eu plusieurs raisons, mais la première, c'était déjà mon père. Quand j'étais petite, il me racontait ses histoires de voyage. Il a toujours voyagé, mais de manière très écologique. Il prenait jamais l'avion, il prenait tout en train. Il avait un kayak qui pouvait monter et démonter, en une structure en bois qu'il mettait dans une peau. Et il l'emmenait en train tout au nord de l'Allemagne, par exemple. Et il descendait tous les fleuves en dormant sur les berges des rivières. Et il me racontait comment il rencontrait des gens qu'il accueillait dans leur jardin et... Il me parlait aussi d'une fois où il était parti en Grèce, et dans son regard, je voyais qu'il y était encore. Il me disait « J'ai jamais mangé des pêches aussi bonnes que celles que t'achètes sur le petit âne qui passe avec le petit papy dans la rue. » Et je voyais quand il me parlait de ça, il était complètement... Ouais, il était là-bas, quoi.
Mais t'as pu voyager avec ton papa ? Ou est-ce que c'était vraiment ces histoires qui t'ont fait rêver, qui te donnaient envie, toi aussi, de prendre la route ?
Non, j'ai jamais voyagé avec lui. Je pense qu'il a eu... Peut-être qu'il avait eu sa dose de voyage et maintenant il était terre à terre avec son jardin, il cultivait ses petites fleurs. Mais il en parlait toujours comme ça au détour d'une conversation ou en buvant son thé. Il me parlait « Ah ouais, je me rappelle ». Et puis là, il partait dans un petit récit. Mais c'était jamais des voyages comme on peut imaginer maintenant, ultra... Enfin, plein de couleurs, plein de rebondissements, d'aventures, comme on voit, tu pars en 4x4 en Tanzanie et tu vois des buffles et des zèbres et des... C'était juste des petites aventures, il partait avec son sac à dos et voilà, des choses simples, juste des rencontres dans la rue d'un petit papy. Il me parlait du sourire complètement édenté de ce petit papy en Grèce, et enfin, genre de trucs, quoi. Des petits moments de vie, quoi.
Et ça a éveillé chez toi cette envie aussi de vivre ces micro-aventures qui finalement sont devenues des grands voyages.
Bah ouais, avec les moyens qu'on a maintenant, du coup, maintenant, tu prends l'avion pour un rien Mais j'ai toujours essayé de voyager de la manière où mon père, il m'avait appris finalement par ses récits, quoi. Jamais juste prendre l'avion, faire la photo sur le monument comme tout le monde fait, quoi. Moi, je voulais justement aller rencontrer les gens pour avoir ces impressions et vraiment de m'immiscer dans la vie des gens, quoi.
Ouais, tu parlais d'immersion avant, cette envie de, quand tu pars, quand tu voyages, vraiment prendre le temps de connecter les gens et d'essayer d'être une locale.
Ouais, c'est ça. Ça a toujours été mon but. Même si au final, ben, quand t'es blonde aux yeux bleus, tu peux passer inaperçu qu'en Norvège et en Allemagne, quoi. Mais là, je me rappelle aux Marquises, une fois, j'avais rencontré un copain, du coup, dans la rue. On avait juste discuté sous un manguier pendant 1 heure, 2 heures. Il m'a dit « Ah bah viens chez moi ». Et puis le soir, je mange chez eux, il y avait son père. Et là, je repars, je reprends mon kayak pour rejoindre le voilier. Et puis il me dit « Mais Ina, en fait, on dirait que t'as toujours vécu ici, quoi ». Et là, je me suis arrêtée pendant au moins 10 minutes et... J'avais presque envie de pleurer parce que c'était le compliment que j'ai toujours voulu qu'on me fasse, quoi. Et ouais.
Alors comment ça a commencé tout ça ? Parle-nous de ton premier voyage. Donc, tu finis tes études à Strasbourg et là se pose la question de « et maintenant ?» Donc jeune femme, quand on sort avec un diplôme en poche, se pose la question de quelle direction prendre dans la vie ?
Bah ouais, j'ai fait comme tous mes amis à l'école et j'ai trouvé un travail parce que bah, c'était un peu le Graal d'avoir ton diplôme de kiné et d'aller tout de suite travailler, mais... Et un jour, je me suis dit, ah oui, voilà, c'est ça, c'est mon banquier, il m'appelle, il me dit, bon, Ina, votre compte d'épargne, le livret populaire, ou je sais plus comment on appelle ça, plafonné à 7000 euros, bah voilà, il est plafonné, vous allez atteindre, il faudrait en ouvrir un autre. Et je me dis, bah non, je veux pas encore collectionner les comptes en banque, quoi. Du coup, je me suis dit, bon, j'arrête tout ça, j'ai arrêté mon remplacement de kiné et je suis partie, mon premier pays c'était le Laos, parce qu'il y avait une association qui m'avait proposé de venir avec eux. Et elle me dit « Ah bah si tu veux, on part en octobre avec l'association, on cherche des bénévoles ». Je dis « Bah ok, je pars ». Et là j'ai une copine qui m'a rejoint, elle m'a dit « Ah je vais partir avec toi aussi, puis bon si déjà on est au Laos, autant aller au Vietnam, si on est au Vietnam, autant aller en, en Thaïlande. Et voilà, et on a voyagé pendant 7 mois. Et je suis rentrée parce que j'avais promis à ma mère d'être là pour son anniversaire. Mais voilà, c'était juste un hasard.
Mais donc ton premier voyage, c'était l'Asie du Sud-Est et ça a commencé par le Laos.
Voilà, ouais. Alors que j'avais jamais été attirée par la culture de l'Asie du Sud-Est. Moi, mon rêve, c'était Tahiti. Je jurais que par Tahiti. Et puis finalement, je me suis dit, bon, bah, on me propose le Laos. Ça peut pas faire de mal, ça peut toujours être bien et ça peut toujours être une expérience. Puis justement, le fait de faire une mission humanitaire, t'es complètement immergé dans le village. Tu vis la vie des gens, tu fais à manger avec eux. En fait, tu dors sur les mêmes endroits que eux, tu vas faire ta toilette dans la même douche. Et moi, c'est ça que je recherche dans les voyages, c'est pas d'être à l'hôtel et de voir depuis la chambre d'hôtel. Et puis ça s'est révélé être complètement comme ça. Tu fais partie de la famille, sauf que tu parles pas la même langue, mais...
Et quand t'es parti 7 mois, tu savais que ça allait durer 7 mois ou t'avais juste un billet simple pour le Laos sans savoir combien de temps allait durer ton voyage ?
On savait pas exactement, on avait pris un billet simple, ouais. Puis on s'était dit si le Laos ça nous plaît, on y reste. Après il y avait toujours ce problème de visa, tu peux pas rester plus qu'un mois quoi. Voilà, des fois on prenait le train, on se dit bon tiens on va dans cette ville là, puis cette ville là nous plaisait pas, donc on reprenait le même train 5 minutes après qui continuait. Et puis on s'est dit bon tiens on irait bien dans ce pays là, puis tu rencontres toujours des gens qui te disent bah, ce pays là il est génial pour cette expérience. Et...
Regarde d'ailleurs. Gérard d'ailleurs. Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
C'est marrant le voyage, tu disais avant hors micro, quand t'es revenu, les journalistes t'attendaient pour pouvoir raconter tout ça. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu exceptionnel quand on part comme ça longtemps, loin, en Asie ou ailleurs. Et on se rend compte qu'en fait, énormément de gens sont sur les routes du monde, de tous les pays, et on fait des rencontres tout le temps. Mmh. Souvent, on nous dit, mais t'as pas peur de partir seul, alors qu'en fait, non, absolument pas, parce que les gens voyagent, et puis c'est très facile de d'être en lien, et de créer son quotidien, son même projet, parce que souvent, ils disent, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et en fait, y a pas de plan, mais c'est le meilleur des plans, finalement, tout se met en place tout seul.
Ouais. Au contraire, moi, je trouve, j'ai voyagé de temps en temps toute seule, et c'est les meilleurs moments, parce qu'au moins, les gens, ils viennent vers toi, surtout quand t'es une fille, ben... Soit ils ont envie de te parler parce qu'ils ont peur, souvent ils ont peur pour toi, ils te disent ah, viens chez moi, dors chez moi ce soir parce que je veux pas que tu dormes ici en tente. Et aussi il y en a qui sont impressionnés parce que voyager en tant que fille toute seule, il y en a, elles feraient jamais ça quoi. Et ouais, de fil en aiguille, tu trouves toujours des gens qui ont eu des super expériences, qui te disent va dans ce pays, ou alors tu fais un petit bout de chemin avec eux que tu n'aurais jamais pensé. C'est aussi grisant de rencontrer des gens qui parlent pas ta langue. Moi, j'ai vachement développé mon anglais comme ça. Je parlais pas du tout anglais quand j'ai passé mon bac. Voilà, petit à petit, quand tu rencontres des gens, tu parles, tu te rends compte que ton cerveau, il se met dans une autre langue. Et ouais, je trouvais ça hyper excitant, quoi.
Et donc, quand on part comme ça, plusieurs mois, le retour est des fois pas évident.
Oh oui. Bah, quand je suis rentrée de mon voyage de 7 mois, là, je crois que j'ai mis 6 mois à m'en remettre. J'étais en, je sais pas, je pense en dépression. C'est un peu horrible ce mot-là, mais je dormais plus la nuit, Puis je me demandais vraiment qu'est-ce que je faisais en France, quoi. Ça manque. Quand je suis arrivée à l'aéroport à Francfort, mon père il est venu me chercher et je me rappelle ma première réflexion, c'était mais papa, il y a eu un attentat, il y a eu un, je sais pas, tout le monde est gris, tout le monde tire la tronche, enfin tout le monde est habillé en noir et il me dit bah non, c'est normal. Je dis ah bon bah ok, c'est normal, d'accord. Et donc j'ai vite arrêté de sourire à tout le monde, de dire bonjour à tout le monde, même encore aujourd'hui là quand je suis rentrée de Tahiti. Ma sœur, elle me fait la réflexion hier, elle me fait « Mina, arrête, hein, on n'est pas à Tahiti, tu dis pas bonjour aux gens dans la rue ici. » Bon, bah d'accord, ok, je vais arrêter. Et du coup, t'as tout un moment où tu dois te remettre dans le moule, quoi. Tout comme tu vas t'adapter à la culture dans laquelle tu vas dans certains pays où il y a certaines choses que tu fais pas. Puis, et ben là, quand tu rentres en France, c'est pareil, quoi. Tu dois te réhabituer. Puis... Mais en même temps, t'as pas envie forcément de te réhabituer à des trucs qui ont pas de... Moi, je trouve ça trop dommage de revenir en France et te dire « Ah, ok, en France, on tire la gueule, donc je vais tirer la gueule, quoi. » Des fois, je préférais garder cette magie-là et essayer de la transmettre un peu aux gens en disant « Bah voilà, à Tahiti, c'est comme ça, les gens, ils s'invitent, même s'ils n'ont rien à manger, ils t'invitent à manger. Et tout le monde se dit « Bonjour, comment ça va dans la rue, même si tu ne te connais pas ?» Ben, peut-être qu'on peut garder un peu de ça, justement, c'est ça aussi de voyager. C'est peut-être de ramener un peu de... C'est pas que des souvenirs matériels, mais de ramener peut-être un peu des modes de vie et les transmettre à ceux qui voyagent pas, qui n'ont pas forcément envie, mais... quand même les enrichir, quoi.
Mais c'est vrai que quand on revient, on est plein d'énergie et souvent on se rend compte qu'on se fait de nouveau happer par un système, par un modèle hein, finalement, qui était le nôtre, celui qu'on a quitté. On en découvre de nouveau et revenir ici, c'est comme si t'as le carcan des habitudes qui reprend le dessus et petit à petit, on a tendance des fois à s'éteindre de nouveau jusqu'au prochain voyage. Ce que tu as fait, si j'ai bien compris, donc tu es rentré et puis avec cette envie de repartir.
Bah c'est ça, je rentrais, le temps de trier mes photos, de laisser un peu tout ça décanter parce que finalement le voyage c'est quand même fatigant, des fois t'as des centaines d'impressions tous les jours et moi j'ai l'impression souvent que mon cerveau il est en ébullition, il faut qu'il traite tout ça, que ce soit les images, les odeurs, les gens, les rencontres. Donc voilà, le retour en France, ça permet aussi de te reposer, tu te mets un peu dans ta grotte en attendant d'avoir tout digéré quoi. Et après, dès que c'est fait, il faut absolument un nouveau voyage parce que sinon, moi j'avais l'impression d'avoir plus de magie dans ma vie quoi. J'arrivais pas à trouver cette magie-là que je trouve dans les voyages, j'arrivais pas à la trouver dans mon quotidien et... Voilà, je me rappelle d'une dispute avec mon ex-copain et qui comprenait pas le voyage et je lui disais mais en voyage moi le matin je me lève et tu sais pas de quoi ta journée va être faite, tu sais qu'elle va être géniale, qu'il y aura plein d'expériences mais et j'ai l'impression à Grenoble moi je me lève à 8h, je vais bosser à 9h, machin, à midi je mange et j'ai l'impression que tout est réglé quoi. Et voilà, c'est pour ça le voyage moi il faut toujours un projet d'avance et des fois même l'excitation du voyage était même plus intense que le voyage en tant que tel, ça m'est arrivé t'es tellement dans la préparation, tu t'imagines ce que tu vas vivre, c'est comme si t'étais déjà en voyage, quoi.
Mais quand tu pars en voyage, surtout sur du long cours, il y a quand même une réalité qui, des fois, nous ramène à la matière, c'est la réalité économique. Parce que voyager a un coût. Comment est-ce que tu fais, toi, pour pouvoir voyager? Est-ce que tu as trouvé un moyen de faire comme ce qu'on appelle les digital nomades, voyager, travailler à l'étranger, ou quelle est ta technique?
Là, j'ai commencé à voyager en faisant du woofing. C'est génial, ça m'a permis d'avoir des super expériences. Par exemple, à La Réunion, j'ai bossé dans une distillerie de rhum, ou... une distillerie d'huile essentielle, tout ça, c'est génial pour découvrir la culture.
Alors le woofing, on peut en parler pour ceux qui ne connaissent pas. Donc le woofing, c'est en général une sorte d'échange de bons procédés où tu arrives souvent dans une ferme, souvent en lien avec le monde rural. Et l'idée, c'est vraiment de donner du temps et des compétences en échange du logement et des repas.
Enfin, le principe de base, c'est ça. Et après, il y en a beaucoup qui abusent, que ce soit du côté de la personne qui voyage, qui prend ça juste pour un hébergement gratuit, ou du côté de la personne qui accueille, qui prend ça pour un travailleur non payé, quoi. Donc là, j'en reviens clairement. En tout cas, en Polynésie, j'ai eu 2-3 mauvaises expériences, mais j'ai fait ça que à La Réunion et à Tahiti. Voilà, ça convient un petit moment, mais après, déjà, t'es toujours au même endroit, donc tu peux pas forcément bouger.
Tu dis ça a ses limites. Pourquoi, par rapport à cette notion de travail dissimulé, là, dont tu parles, ou pourquoi, quelles sont les limites pour toi?
Ouais, c'est plutôt au niveau du travail dissimulé et... Là, j'étais dans une ferme perlière, justement, sur un mini atoll. Et en fait, vu qu'il n'y a rien de spécial à faire, ils comptent sur le fait que les gens s'ennuient et qu'ils vont aider toute la journée. Donc, des journées de 6h à 16h sans problème, quoi. Et moi, vu que j'ai fait beaucoup de woofing, je leur disais, non, c'est pas 6h, 16h, c'est 5 heures de woofing par jour. Et voilà, du coup, les gens, ils se mettent à râler. Ou alors, on me disait, mais tu manges trop. Donc là, en fait, ça perdait complètement l'idée de base du woofing qui est un échange et souvent tu arrives dans un lieu de woofing. Quand c'est un jardin ou une ferme avec des animaux, souvent les gens ils ont déjà un peu de notion, mais quand c'est dans une distillerie de rhum ou une ferme qui produit des perles, tu sais pas du tout ce que c'est quoi. Et là j'avais plus du tout la notion de partage, c'était vraiment tu viens, tu travailles, on te nourrit et on te loge dans un petit bungalow. Mais par contre, si tu veux des explications sur les perles, c'est toi qui les cherches. Et voilà, je trouve ça un peu limite quoi.
True.
high above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow.
Ina, je veux bien que tu reviennes sur cette expérience dans une ferme perlière au milieu du Pacifique. C'est quand même une histoire et une expérience complètement dingue. Donc là, tu te retrouves sur un atoll au bout du monde, entouré par les mers, à chercher des perles, c'est ça ?
Ben, les journées, c'est toujours un petit peu les mêmes. Le matin, tu plonges, tu vas chercher les... En fait, les nacres, c'est les nacres qui ont les perles à l'intérieur. C'est comme des grosses huîtres un peu plates. En fait, elles sont sur un, comme sur un fil à linge, entourées d'un panier, parce que sinon les raies, les tortues et les gros poissons viennent... ils croquent, quoi, pour manger la chair qu'il y a dedans. Donc en fait, elles sont suspendues à 4 mètres de profondeur dans leur panier. Il faut aller chercher les paniers, les sortir pour les gratter, pour enlever tous les parasites qu'il y a dessus, sinon elles ne peuvent plus bien respirer. Et une fois qu'elles sont grattées, ben, tu les réattaches sur les fils et tu vas les remettre sur ce fil à 4 mètres de profondeur. Donc toute la matinée, c'est en apnée, tu descends, tu cherches, tu remontes, tu le mets dans le bateau, tu redescends. Et moi, j'adorais ça parce que tu es sous l'eau, il n'y a aucun bruit, à part le bruit de tes bulles. Et dès que tu soulèves un panier... Bon, il est suspendu, mais dès que tu le bouges, il y a plein de petites particules qui s'envolent, donc il y a plein de poissons qui arrivent, il y avait même des bancs de bébés requins, de 30 bébés requins. Et des fois, j'oubliais complètement que j'étais sous l'eau, j'oubliais complètement que j'étais en apnée. Moi, j'ai toujours eu la phobie de l'eau. Et là, je me surprenais à me dire « Ah tiens, Ina, t'es en train de faire des nœuds, d'attacher des paniers, t'as plein de requins autour de toi, et en fait, ça te paraît complètement normal. » Moi, j'étais complètement dans mon élément, et voilà. Et donc ça, c'est juste l'entretien des nacres. Et quand elles sont assez grandes, ben, c'est le moment de les greffer. Donc quelqu'un met un petit noyau dedans comme une bille, et c'est la nacre qui va en un an l'enrouler de substances nacrées. Voilà, donc au bout d'un an, tu réouvres les nacres et tu vois la perle. Et
là, donc, tu es au milieu de l'océan. Quand on parle d'atoll, moi j'ai vraiment l'image d'une sorte de toute petite île avec des plages au sable blanc dans des lieux absolument paradisiaques. C'est encore plus beau que sur les cartes postales.
Ouais, c'est exactement ça, ouais. Ouais, c'est... De loin, moi je suis arrivée en voilier, de loin tu vois rien, et tout d'un coup, ta vision elle s'accrue, et tu vois deux, trois petits cocotiers, et juste du... Bah, c'est volcanique, donc c'est des rochers assez abrasifs qui sortent de l'eau, et là tu vois les vagues qui se cassent dessus, c'est là que tu sais que tu arrives sur une île. Et certains atolls, tu peux pas rentrer dedans, c'est vraiment un anneau fermé, et ceux où tu peux rentrer dedans, il y a une petite passe, ça s'appelle... Comme une rivière, quoi. Il faut attendre que la marée rentre dans l'atoll pour pouvoir rentrer en voilier. Et donc, en fait, quand t'habites sur les petits îlots qui composent l'anneau corallien, des fois, entre les petits îlots, tu peux passer à la nage ou tu peux passer quand la marée est basse. Et sinon, voilà, t'es entouré d'eau. Dehors, t'as l'océan. À l'intérieur, t'as le lagon. Donc, c'est tout calme. Et voilà, où que tu regardes, c'est toujours bleu. Et il y a deux, trois cocotiers. Si tu veux prendre un peu d'altitude, ben c'est le cocotier la hauteur maximum. Mais...
Quand on pense atoll, quand on pense île, on pense souvent aussi à voyage de noces, vacances d'exception. Ouais. Quelle est la différence entre partir en vacances là-bas et y vivre ?
Quand tu vas en voyage de noces, tu restes 3-4 jours, tu vas plonger un peu. Généralement, les gens, ils ont un programme tout fait. Jour 1, plongée, jour 2, excursion à telle et telle plage. Et en fait, quand tu y vis... Ça a le côté magique que t'as plus rien à faire, en fait. Toutes tes journées sont un peu pareilles. T'as juste à profiter, tu vas nager, tu vois les poissons. Mais il faut pas chercher de grands divertissements parce qu'il y en a pas. C'est pas comme chez nous en France où tu... Ah tiens, ce week-end on ira skier là-bas. Ah, ce week-end je vais faire un peu d'escalade. Ou... Là-bas, en fait, la seule chose qui varie, c'est un peu la météo, quoi. S'il pleut, t'es content parce que le ciel est gris et l'eau du lagon, elle est un peu différente. Mais sinon, tous les jours, le vent souffle et... Donc les poissons, c'est toujours les mêmes. Mais il y a une certaine magie de la routine qui est en fait jamais vraiment, vraiment pareille. Mais c'est quelque chose qu'on... Enfin, moi, en tout cas, j'avais vachement du mal en France. Il fallait que tous mes week-ends soient différents, toujours plein de sensations, plein de nouveautés. Et en fait, quand t'es là-bas, ben, c'est toujours pareil. Et d'ailleurs, les gens, tu les vois, ils ont une espèce de flegme. Voilà. Ah oui, ben, on se lève le matin, on va pêcher notre poisson, on va faire notre lait de coco, ben, comme hier et puis comme demain. Et...
Est-ce que tu t'habitues à cette routine, toi qui avais ce besoin de mouvement et de nouveauté en étant ici en France ? Est-ce que le côté, l'ennui presque, est-ce que tu arrives à t'accommoder de cet ennui ?
Bah, moi j'ai adoré, ouais. Je pensais pas du tout que ça allait pouvoir me plaire, mais après peut-être aussi parce que je sais que c'est temporaire, parce que quand il a fallu me poser la question, est-ce que vraiment je m'installe là-bas, Et ben là, dans ma tête, il y avait quand même quelques petits trucs qui ressortaient en me disant, mais Ina, t'es sûre, tu vas manquer d'amis, tu vas manquer de projets culturels, de cours de danse, de trucs comme ça. Et donc je pense que je m'y suis habituée parce que je savais qu'il y avait une limite, parce que sinon je pense que c'est... faut être né là-bas pour l'apprécier, quoi. J'ai rencontré beaucoup de gens de français ou d'étrangers, en tout cas à la Polynésie, qui se sont installés là-bas. Et tu vois sur leur visage, ils respirent plus la joie de vivre comme toi tu peux l'avoir quand tu y arrives, quoi. Et j'ai rencontré justement ces gens-là qui essayent peut-être de s'auto-persuader qu'ils ont trouvé l'endroit de rêve avec ah ouais, mais il y a quand même des cocotiers, il y a quand même du sable blanc, il y a quand même plein de poissons, des dauphins, mais j'ai l'impression qu'ils n'arrivent plus à voir la beauté de la chose au bout de tellement d'années, quoi.
Et c'est là que c'est le moment de partir.
Ouais, je pense. Et c'est là que ces gens-là restent, parce que aux yeux de leurs amis, bah oui, quand même, j'habite en Polynésie, tu te rends compte, les plages, tous les gens rêvent de ça, donc pourquoi moi je partirais de là-bas, quoi. Alors qu'en fait, bah si t'es plus fait pour ça, t'es plus fait pour ça. Et...
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Tu as aussi expérimenté, Ina, la vie sur un bateau. Hein, c'est en tout cas ce que tu disais avant. Tu as passé pas mal de temps à vivre aussi sur un bateau. Donc là, on est sur un atoll, une ferme perlière où tu plonges plusieurs heures par jour pour aller à 4 mètres de profondeur, tourner les nacres, nettoyer les nacres pour en faire des perles. Donc tu es arrivé là-bas en bateau et tu es reparti en bateau. Et tu as fait quoi sur ces bateaux? Parce que tu me disais, je crois que tu as passé pas mal de temps aussi à vivre sur un voilier. Ce qui est encore une autre tranche de vie, notre expérience complètement incroyable, habiter sur un bateau.
Ouais. Je suis partie de Tahiti et on est parti pour les Marquises. C'est un ami qui avait besoin d'aide pour convoyer son bateau. Et j'avais jamais fait ça, moi, vivre sur un bateau. J'ai toujours aimé les espaces confinés quand je prenais ma tente pour aller dormir en montagne. Et j'ai jamais réussi à dormir à la Belle Étoile parce que le ciel trop ouvert, ça m'a toujours gêné. Et là, d'être sur ce bateau, ben, j'adorais. C'est tout petit, t'as tout ce qu'il te faut autour de toi. Et en fait, c'est la liberté totale, quoi. Il faut juste du vent, et si le vent est là, tu peux partir où tu veux, quand tu veux, tu peux décider, tiens, j'irai sur cette île, non, finalement, je vais sur cette île-là, et après, de fil en aiguille, tu peux aussi faire le tour du monde comme ça, ça peut ne jamais s'arrêter, quoi. Et en fait, tu trimbales, c'est ta maison qui te trimballe partout, quoi. Et si tu veux jeter l'ancre devant une plage, tu peux rester 4 mois, 5 mois, tant que t'as de la nourriture avec toi, et ouais, pour moi, c'était vraiment la liberté absolue, et t'as juste à attendre que le vent se lève, et après, il y a le côté confinement sur le voilier aussi, quoi. Quand t'es en pleine mer, je pense que c'était un des... Ouais, peut-être des pires moments de ma vie quand j'ai traversé pour les Marquises. Parce que j'avais un mal de mer atroce qui passait pas, donc je pouvais plus manger. Tu peux rien faire, quoi. Je me suis dit, c'est le moment de méditer un peu, de penser au moment présent, tous ces trucs un peu... toutes ces réflexions du moment, et même ça, j'arrivais pas, quoi. Mais au bout d'un moment, ça vient, et puis tu commences... moi, j'adorais regarder les changements de couleurs du ciel, des nuages, tout d'un coup tu vois des dauphins qui passent et puis tu dis je comprends complètement pourquoi je suis là, quoi. Et
comment le mal de mer s'arrête en pleine mer alors? Comment est-ce que tu as réussi à en sortir sans descendre sur terre?
J'ai jamais réussi à en sortir, c'est vraiment que quand je pose le pied à terre que ça va mieux, mais j'arrive à me dire qu'en fait je préfère avoir le mal de mer et vomir et être complètement amorphe que de pas vivre ces moments-là, quoi. Je me dis quand tu vois un banc de dauphins qui te suit pendant une heure et qui se retournent sur le dos, qui te regardent avec leur petit œil rieur, tu te dis c'est pas grave si je vomis, quoi. C'est... Au moins j'ai vécu ça, quoi.
Il y a le côté confinement, mais aussi le côté humain, à huis clos comme ça. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à cohabiter sur une surface aussi restreinte au milieu de nulle part?
Ouais, ça c'est la grosse difficulté. Je pense que j'ai mis des litres d'eau dans mon vin, parce qu'en plus j'étais avec un ancien militaire, 70 ans, qui me dit de toute façon à cet âge-là on change plus, hein. Donc je me dis c'est à moi de changer.
À deux sur un bateau?
Ouais. À deux, ouais. Ce qui nous tenait, c'est la navigation. On parlait des heures et des heures de navigation. Il m'apprenait tout, que ce soit réparer le bateau, que ce soit comment gérer les voiles, tout ça. Du coup, je suis devenue autonome et c'était ça qui nous maintenait, quoi. Mais niveau humain, au bout d'un moment, tu te rends compte que t'as plus forcément grand-chose à partager. Enfin, t'as épuisé tous les sujets. Et si c'est pas quelqu'un qui est fondamentalement comme toi, au bout d'un moment, t'es juste deux personnes qui vivent sous le même toit, mais tu partages plus grand-chose, quoi. Après, quand je suis en Vaux-Marquise, j'ai rencontré un autre bateau avec des jeunes qui qui se posaient les mêmes questions existentielles que moi. Et là, ben, là, ça va beaucoup mieux, quoi. Tu sens que tu peux parler des heures, même en navigation. Je sais pas comment dire, mais plus je sors de ma zone de confort, plus j'en ai plein la vue, mieux c'est, quoi. Si je suis perdu, si ça parle une langue différente, si j'arrive pas à lire les panneaux, si les gens sont habillés différemment et si je comprends même pas ce que j'ai dans l'assiette quand je suis au restaurant, pour moi, c'est ça le vrai voyage, quoi. C'est de te dire, ah ouais, il y a des gens qui vivent comme ça et qui vivent comme ça depuis tout le temps. Et voilà, c'était d'aller chercher vraiment la différence avec ma culture que j'ai toujours eue, quoi.
Je te rencontre en Alsace dans un retour et donc le voyage, effectivement, ça apporte beaucoup, mais des fois se pose aussi la question de et maintenant, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, voilà, comment est-ce que quel âge as-tu et où est-ce que tu es dans la réflexion par rapport à la direction à donner à ta vie? Parce qu'il y a aussi ça, il y a cette forme de pression sociale, de pression familiale, où finalement on nous renvoie beaucoup ça quand on est voyageur, presque même des fois j'ai l'impression qu'on dérange, parce qu'on renvoie une forme de liberté qui peut être assez exacerbante pour celui qui ne bouge pas, ou celui qui est un peu prisonnier de tous ces codes culturels, ou qui a son crédit, ses enfants, sa voiture. Voilà, donc il y a ce entre ce qu'on vit intérieurement et aussi cette forme de pression extérieure qui des fois peut être aussi oppressante, assez oppressante. Comment tu navigues dans toutes ces entre tes pensées?
Bah là, ça va beaucoup mieux. Il y a quelques années, quand j'ai vraiment quitté la France en me disant je vais aller vivre ailleurs, je sais pas encore trop où, j'ai pas mal d'amis qui me disaient mais Ina, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te retrouver à 40 ans, tu seras toute seule, tu auras rien construit. Est-ce que t'as peur de la société? C'est pour ça que tu pars. Regarde les choses en face. Regarde, on est tous en train de s'installer, on a tous des enfants. Pourquoi toi t'es complètement différente? T'as peur, quoi? C'était vraiment la peur qui ressortait dans le regard des gens. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être des gens qui sont jaloux. Et en grattant un peu, je me suis rendu compte que c'était des gens qui avaient aussi envie de voyager, mais qui s'étaient glissés dans ce modèle un peu de société qu'on... Enfin, pas qu'on nous impose, mais qui est quand même tellement présent que si t'as pas la volonté de faire autre chose, bah, tu vas te couler dedans, quoi. Et en ayant revu ses amis quelques années après, il me dit, non, mais en fait, Ina, t'as raison. C'est bien ce que tu fais. C'est juste que moi, j'ai pas le courage. Tu comprends, j'ai un crédit, j'ai ça. Et en fait, c'est juste des barrières qu'on se met, nous, quoi. Je sais pas, je pensais peut-être parce que, comme je disais, mon père m'a toujours parlé de voyage depuis que je suis petite. Ça fait partie de mon enfance et le mot voyage a toujours été présent. Mais si tu grandis dans une famille un peu plus classique, et ben en fait, le voyage, c'est ok, bon, ben c'est bien gentil, mais au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Mon oncle m'a encore dit ça il y a deux jours. Bon, tu vis une vie super, mais bon, c'est quand que tu te poses, c'est quand que tu. En gros, c'est un peu. C'est quand que tu grandis, quoi. Et en fait, je me dis maintenant, à 34 ans, ben, je pense que je grandirai pas dans la direction où les gens veulent que je grandisse. Et. Faut juste pas tomber dans le voyage. Tu consommes du voyage parce que tu sais pas quoi faire d'autre. Et ça aussi, tu rentres à la maison, tu choisis ton prochain voyage. Et au bout d'un moment, faut peut-être que tu trouves du sens à ce voyage. Mais moi, ouais, je crois que j'arriverai pas à vraiment me poser. Enfin, les pays sont tellement beaux, les gens sont tellement gentils. Il y a tellement de choses à découvrir que tu peux pas t'arrêter comme ça, quoi. Et là, pour être rentrée un peu en France, je vois tous mes amis qui me prennent toujours pour un peu pour la folle, quoi. Ah, Ina, la hippie, elle a toujours des expériences incroyables à nous raconter. Bon, raconte-nous encore ce qui s'est arrivé. C'est un peu comme si... Ouais, comme s'il regardait un film ou comme s'il lisait un bouquin, quoi. J'ai l'impression que j'incarne un peu celle qui se coulera jamais dans le moule et puis qui va les divertir un peu, quoi. Mais eux, pour rien au monde, ils feraient tout ça et ça les intéresse pas forcément, mais je me sens complètement en décalage avec les gens de mon âge.
Donc là, l'idée, c'est quand même de retourner en Polynésie, sur les îles ou sur ce bateau pour retrouver les gens. C'est pas forcément voyager pour découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures. C'est aussi le côté humain, là, si j'entends bien, qui t'appelle.
Mmh. Ouais. En fait, ce que j'ai aimé dans cette expérience de vivre vraiment en Polynésie, c'est de créer une petite routine, quoi. C'est un peu bête parce que quand tu voyages, justement, c'est pour sortir de ta routine. Et en fait, quand tu voyages, bah, t'as envie d'une routine dans un autre pays, quoi. Là, j'adorais, bah, tu vas acheter ton poisson, tu vas dans les marchés, t'achètes des bananes, des fruits de la passion, des mangues, enfin tous les trucs que tu rêves quand t'es en France et que t'achètes jamais parce que ça vient du bout du monde, bah là-bas ça devient ta routine. Quand j'étais à La Réunion, j'avais des bananes qui poussaient dans ma douche et voilà, ce genre de choses. Donc j'ai envie de comme toujours, de me fondre dans le pays et je sens que j'ai encore un peu des choses à faire là-bas. Ouais, même si je serai jamais une vraie Polynésienne. Mais...
Ina, merci. Merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.